OK, si vous voulez ouvrir vos Écritures, on va aller dans le chapitre 20, 35 du livre de la Genèse, chapitre 35, versets 1 à 15. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel. Il l'appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparit encore à Jacob après son retour à Padam-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Toute une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, on va reviser un petit peu rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière, de manière à garder le fil conducteur de toute cette histoire-là, qui est pleine d'enseignements. Plus le nombre des années de vie chrétienne s'accumule dans ma vie, plus je me rends compte de la vérité que les Écritures, plus on les connaît, plus ils sont riches, plus ils sont pleins de leçons. Et plus aussi, je me rends compte que pendant des années, j'ai été porté à lire les Écritures superficiellement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on lit les Écritures... On lit en glissant, un petit peu en glissant. Un petit peu comme on a fait une lecture ce matin, mais on est tombé sur un mot. Propitiation. Combien de fois on rencontre des mots comme ça dans les Écritures, on ne sait pas ce que ça veut dire, puis on ne se donne pas la peine d'aller fouiller pour savoir c'est quoi ça veut dire. Alors, quelque part, les Écritures, Dieu cherche à nous dire quelque chose, une idée, puis là, à cause qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on passe droit. Et là, on fait l'erreur monumentale quand on fait ça. Et les Écritures, il faut que ça soit lu, écouté, médité, mémorisé, étudié. Il faut faire toutes ces cinq choses-là avec les Écritures. On se rend compte, si on s'examine avec le nombre d'années depuis qu'on est chrétien, est-ce qu'on est préparé pour venir écouter la parole? Ce matin, vous êtes ici pour écouter la parole. Mais ce que je veux dire par se préparer, préparer pour écouter la parole, ça voudrait dire normalement que chaque jour, vous vous mettez en prière devant Dieu pour dire, mercredi, je vais aller à la soirée de prière. Il va y avoir la parole de Dieu qui va les enseigner. Prépare mon cœur à la recevoir, à comprendre ce qu'on essaye de m'enseigner et à l'appliquer dans ma vie. Et la même chose pour le dimanche. À tous les jours, priez pour ce que vous entendez. La parole entendue. Un sermon, c'est une parole entendue. Mais aussi la parole lue. À chaque jour, il devrait y avoir un moment Et ça devrait être le meilleur moment de notre journée. Si on est des personnes de soir, devriez la lire le soir. Moi, je ne suis pas un gars de soir, je suis un gars de matin. Le soir, je n'ai plus le temps de lire, je suis fatigué, c'est pas bon, pour moi. Pour d'autres, ça peut être bon. Mais on n'est pas toutes faites pareil. Moi, c'est le matin, quand j'ai mangé, j'ai déjeuné, puis j'ai l'esprit frais. Là, c'est le moment de donner une heure au Seigneur, si je suis capable, une demi-heure, au moins 15 minutes. Ça devrait être au moins 15 minutes. Ça, c'est mon œuvre, c'est ma conviction profonde. Combien de fois on passe des journées complètes sans lire les Écritures? Même pas un mot. Ah, oh, je suis pressé. Il y a plein de choses à faire. Pas de temps. Tu devrais te prendre le temps. Parce que c'est ça qui est le plus important. Luther, il disait que pour lui, une journée qui avait pris sans... Une journée qui ne priait pas, et lui, il priait 1h30, 2h par jour, et il lisait les Écritures, passait beaucoup de temps dans ces Écritures. Puis il disait que quand il faisait une journée... S'il y a un homme qui sait ce que c'est qu'occupé, là... C'était bien Luther à son époque. Il était enterré de demandes de toutes parts pour les aider. Et il était... Et il avait besoin de prier. Et il avait besoin de lire ses Écritures à tous les jours. Ça, en vieillissant, on se rend compte des fois qu'on est manquant là-dessus. Il faut demander à Dieu de nous donner la discipline de lire les Écritures à tous les jours. Et après ça, on parlait d'étudier. Qui se donne la peine d'étudier les Écritures? T'as acheté un dictionnaire, t'as acheté une concordance, t'as acheté quelques commentaires. Passez du temps à essayer d'aller creuser les Écritures, comprendre ce que les Écritures disent. Méditez les Écritures. Tu sais, on parle des Écritures, parce que j'ai ça à l'esprit, là. Méditer les Écritures, ça veut dire que si on les mémoriserait, on serait capable de les méditer parce qu'on les aurait dans la tête. On les mémorise plus, notre affaire presque perdue de nos jours. Oh, ben moi, j'ai pas de mémoire. Hey, arrête. Tu n'as une mémoire, c'est parce que tu veux pas t'en servir. Pas pareil. Alors, quelque part, il y a plein de choses qu'on est capable de faire avec les Écritures qu'on ne fait pas. On n'a pas les bénédictions qui l'accompagnent non plus. On lit peu. On écoute pas assez préparé avec la prière qu'on devrait demander au Seigneur. On ne médite pas. On ne mémorise pas. Et on n'étudie pas. Les Écritures. De toute façon, on se demande comment c'est ça qu'on est faible. D'après vous autres. OK. Alors, on revoit ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, le sermon qu'on avait commencé la semaine dernière, c'était « L'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus ». On l'a parlé dans l'heure de misère, le mot « misère » est dedans. L'Éternel voit continuellement notre misère et il n'agit pas en fonction... Tu sais, l'Éternel pourrait dire, « Hey, je l'ai sauvé. » Il me semble qu'aujourd'hui, il devrait avoir un minimum de reconnaissance, puis il devrait vivre droitement, puis il devrait y avouer notre misère. Il voit à quel point on a des difficultés. Et dans sa bonté, il intervient lorsqu'on est dans la misère. C'est ça la miséricorde de Dieu. Alors, l'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par leur rappel. On avait vu que dans le verset 1, il rappelait quelque chose à Jacob. On va reviser rapidement. La deuxième idée qu'on voulait regarder, c'est que l'Éternel manifeste sa miséricorde par la réforme. On a vu qu'à partir du moment où il y avait eu son histoire avec Dina qui était sortie, qu'elle s'était fait violer, puis qu'elle s'était ramassée, ses deux fils, Lévi et Siméon, ont été violents, ils ont compté des mensonges, ils ont pris des faux arrangements avec ce peuple-là. Et après, quand ils ont été dans la douleur, après qu'ils ont été, ils ont tué toute la gang, ils ont pillé leurs biens. Alors, ce que ça faisait, c'est que ça risquait la vie de la jeune nation d'Israël. La nation d'Israël était dans sa jeunesse. Il y avait juste les enfants, alors, mais c'était pas développé, là. Le risque de ce péché-là de Dina et des péchés de Siméon et Lévi qui ont tué, c'était de faire disparaître la race par laquelle Dieu avait promis que le Messie arriverait. On se rend-tu compte à quel point c'est grave? Et c'est ça qui aurait pu arriver aussi. Pourquoi Dieu permet que, là, quand il eut fini cette histoire-là, il sort avec sa famille, puis là, il y a comme l'idée de tout se débarrasser des affaires d'idolâtrie qu'il y avait dans leur vie. Il dit, toute la famille se sont mis ensemble, ils ont enterré ça sous chêne. Ils se sont rendus compte qu'il y a un lien. Ah, il y a encore des loteries dans nos vies, c'est pour ça que le Seigneur a permis. Il y a eu comme un lien. Donc, la réforme, le Seigneur, il est miséricordieux, mais quand il permet une miséricorde, il permet, dans le but de la miséricorde, c'est qu'on soit réformé. Réformé, pas dans le sens de religieux du mot, qu'on change des choses qui sont à changer dans nos vies. Nous réformer. Et la troisième chose, c'est que ça l'amène, dans le verset 7 à 15, un renouveau. On va voir que Jacob, tout à coup, prend conscience qu'il se doit de retourner vers El Bethel. Très intéressant, le mot Bethel veut dire maison de Dieu. Mais là, c'est comme, on dirait que sa façon de voir Bethel est changée. C'est plus Bethel, mais c'est El Bethel. Le mot El, qui est en avant de Bethel, veut dire Dieu. Autrement dit, sa façon de voir n'est plus centrée sur la maison de Dieu, mais plus centrée sur la personne de Dieu. Elle, il a mis elle en avant de Bethel. Quelque part, ça devrait nous donner une leçon à nous aussi. On doit chercher plus Dieu que juste aller au culte un dimanche, chercher Dieu, d'être proche de lui, de l'obéir, chercher à... Alors, si on avait vu que la miséricorde de Dieu est infinie, et que ça se manifestait dans différentes choses, dans notre conversion, dans notre justification, dans notre sanctification, puis dans notre glorification, parce que la Bible parle de nous, dans Romains, comme toutes ces choses-là au passé. Adoptés, unis à Christ, adoptés, justifiés, sanctifiés et glorifiés. Et les verbes sont au passé dans Romains. S'ils sont au passé, donc ça veut dire qu'on est déjà, en quelque sorte, glorifiés en Christ. C'est important de se souvenir. Donc, la miséricorde de Dieu s'est exercée envers chacun d'entre nous depuis notre salut et même avant. Maintenant, elle est fidèle aussi parce que durant toutes les... Elle est fidèle avant notre salut. Dieu avait déjà exercé sa miséricorde envers chacun d'entre nous. Et après notre salut, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas une journée qu'elle ne s'exerce pas. C'est pas à cause qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. Elle est là, pareil, mais c'est peut-être qu'on ne la voit pas. Demandons au Seigneur de nous montrer toutes les fois qu'il exerce sa miséricorde, il y a toutes sortes de moyens pour l'exercer. Psaume 136, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Il y a 26 versets dans le psaume 136, puis il y a 26 fois l'expression « car sa miséricorde dure éternellement ». Pourquoi le Seigneur répète 26 fois la même affaire? C'est-tu parce qu'il veut que ça nous rentre dans la tête qu'il est miséricordieux? Selon moi, ça a des grosses chances que ce soit ça. OK, on avait vu que l'Éternel manifeste sa miséricorde par le rappel. Ici, il vient lui rappeler que c'est un Dieu de grâce. Il lui dit dans le verset 1, « Et Dieu dit à Jacob, lève-toi. » Pourquoi il fallait qu'il se lève? Probablement parce qu'il était découragé. D'avoir vu ses deux fils tuer tout ce monde-là, et là, de réaliser que tous les voisins et les nations environnantes risquaient de dire « Ah ouais, les Juifs, ils mangent de même, eux autres. On va les montrer à vivre. » Après ça, il a essayé de les écraser puis de les éliminer complètement. Là, Dieu dit à Jacob « Lève-toi, monte à Bethel. » Autrement dit, t'es pas à l'endroit où ce que Dieu te veut. Et demeure-y. Il dit même quoi faire. Et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü, ton frère. N'est-ce pas un rappel de la grâce? Dieu rappelle qu'il a été gracieux envers toi dans le passé. Et non seulement il est gracieux dans le passé, mais il est en train de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse maintenant. Il devait être complètement... omnibulé par l'idée, ils vont se venger. Et là, non seulement Dieu, vu que tu es tout mélangé, il vient te dire quoi faire. Si c'est pas de la miséricorde, ça, je me demande, ben c'est quoi? Monte à Bethel. Et on avait vu, et il lui avait dit de demeurer là, il lui avait rappelé aussi le besoin d'adorer. Mais il y a un autel. Pourquoi, dans le verset suivant, l'Éternel manifeste sa miséricorde par la réforme? Très intéressant de regarder versets 2 et 3. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, non seulement ceux de sa parenté, mais dans ce temps-là, il y avait des serviteurs et des servantes. Et on se souvient qu'il y en avait une qui avait volé des téraphimes à son père, qui étaient des objets d'idolâtrie. Et probablement que durant tout le temps de leur voyage, ils avaient pratiqué l'idolâtrie. Et là, c'est comme si Dieu permet que l'événement qui est douloureux, qui t'arrive, te fasse voir que peut-être que ça a un lien avec mon péché. Et là, il se rend compte, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. » Oui, oui, l'obéissance. Dieu il dit quoi faire, mais il obéit. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il vient de se rendre compte que durant tout le temps, depuis qu'il est parti de chez son beau-père, là-bas, tout le temps du voyage, des années et des années, l'Éternel avait dit qu'il serait avec lui. Et il se rend compte, d'un coup sec, l'Éternel a tenu sa promesse. Moi, plus ou moins. Alors, verset 4, « Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. » On avait parlé que les chênes, à ce moment-là, c'était des endroits où les gens faisaient de l'idolâtrie. On avait vu dans le dictionnaire, nouveau dictionnaire biblique, ça dit « Le chêne des devins ou chêne des pronostiqueurs » servait pour les augures et se trouvait près de Sichem. Puis là qui était. Et ce gros chêne-là, qui était un endroit qui servait pour faire de l'idolâtrie, lui, il se sert de ça symboliquement. Je trouve qu'il y a un super de beau symbole. Là où on fait de l'idolâtrie, moi je creuse puis je mets tous mes dieux cochonneries dans terre. Il y a quelque chose de très fort symboliquement. Versets 5 et 6, là on voit que quand on obéit à Dieu, Dieu répond en terrorisant les nations autour. Versets 5 et 6, « Ensuite, ils partirent, et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux, et ils ne poursuivirent point les fils de Jacob. » Voyez-vous, il y avait une chance que la nation soit complètement anéantie à cause de leur péché. Et Dieu est miséricordieux, il permet que les nations environnantes, au lieu de vouloir se venger, y ont peur. D'Israël. Et verset 6, et Jacob vint à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est Bethel, lui et tout le peuple étaient avec lui. Dieu lui avait dit, vas-y à Bethel et demeure-y. Troisième idée, c'est que l'Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par le renouveau. Verset 7 à 15, c'est là qu'on était rendu la semaine dernière. Verset 7, il arrive à Bethel, et là, il a dit, et il y bâtit un autel. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Va-t'en à Bethel? Demeure-y, bâtir un autel, c'est un retour à l'adoration du vrai Dieu, et non pas le Dieu idolâtre. Et il appela ce Dieu, voyez-vous, le mot important, c'est important parce qu'on ne le voit pas nécessairement. Par une lecture superficielle, la parole de Dieu, si elle n'est pas méditée, on manque des gros morceaux. Et il appela ce lieu El Bethel, pas Bethel, parce que Bethel, il avait dit de monter à Bethel, mais là, il l'appelle El Bethel, il met le nom de Dieu, El, c'est le nom de Dieu, il le met avant Bethel. El Bethel qui veut dire le Dieu de Bethel. Donc, son esprit est concentré plus sur la personne de Dieu que sur l'endroit où Dieu lui était apparu dans le passé. C'est important. Car là, c'est là que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait de devant son frère. Maintenant, les afflictions. Des fois, Dieu nous fait sortir d'une affliction, et il permet qu'en arrive une autre affliction. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous le chêne qu'on appela Alon-Bakout, qui veut dire chêne des pleurs. On apprend la leçon que les afflictions peuvent nous atteindre même lorsque nous sommes dans les voies de Dieu. Il obéissait à Dieu. Dieu avait dit, va-t'en à Bethel, il s'en va à Bethel. Il avait dit, fais-toi un hôtel, il m'envoie un hôtel. Il enlève l'idolâtrie de sa vie. Il était dans l'obéissance. Dieu permet quand même une affliction. Il faut retenir des leçons pour nous aujourd'hui. Des fois, Dieu permet que tu aies des afflictions dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que quand tu te remets dans l'obéissance, qu'il va les enlever complètement. Il peut permettre qu'il n'arrive un autre. Mais dans les voies de Dieu, Dieu ne fait rien pour rien. Donc, versets 9 à 12, à 13. Dieu apparut encore à Jacob. C'est pas de la miséricorde que Dieu t'apparaît? Lorsqu'il venait de Padan-Aram, il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Donc, le vainqueur de Dieu. On se souvient de la lutte qu'il avait eue avec l'ange. Et son nom avait été changé parce que son nom signifiait celui qui a lutté avec Dieu et qui Dieu lui a laissé la victoire. Autrement dit, Dieu, des fois, nous aussi, on lutte avec Dieu par la prière. Il permet qu'on gagne, c'est pas parce qu'on est plus fort que lui. C'est lui qui permet qu'on gagne. Verset 11, et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Augmente et multiplie. Une nation et même une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes reins. Et je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Donc, Dieu lui fait la grâce de se faire voir par Jacob et de lui accorder une autre bénédiction. Non seulement il lui apparaît, mais il lui dit qu'il le bénit encore une autre fois. J'aime bien le verset Jérémie, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. » Quand on cherche Dieu et qu'on le fait de tout notre cœur, Dieu dit, « Si tu me cherches, tu vas me trouver. » C'est-tu beau, ça? C'est une promesse divine. Dieu dit, « Si tu me cherches, mais si tu le fais de tout ton cœur, dis-toi une chose, tu vas me trouver. » Des fois, on dit, « J'aimerais être proche de Dieu, j'aimerais être plus sensible aux choses que Dieu veut de moi, etc., etc. » On veut être proche, mais il nous dit, il y a une condition. Tu vas être proche de moi si je sens que tu me cherches pour le vrai. Puis comment on sent qu'on cherche Dieu? Par la prière, par la parole, le temps qu'on passe dans la parole, etc., etc. Donc, Dieu confirme à Jacob aussi que son nom, qui était Jacob, qui voulait dire le supplanteur, est maintenant changé pour Israël, celui qui a vaincu Dieu. Vaincu Dieu, c'est une façon de parler. C'est une vaincu par la grâce. C'est intéressant aussi parce que quand on traduit le mot tout-puissant, je suis le Dieu tout-puissant. C'est dans l'hébreu, c'est El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire tout-puissant, mais ça veut dire aussi tout-suffisant. Donc, je suis le tout-puissant, il n'y a pas rien d'impossible à Dieu, mais tout-suffisant, ça veut dire peu importe le type de besoin que tu as, Dieu est suffisant pour être capable de te le combler, de te le donner. C'est important de voir la nuance de El Shaddai, c'est à la fois le Dieu tout-puissant et à la fois le Dieu tout-suffisant. Dieu est suffisant pour tous nos besoins. Des fois, on peut se rapporter à dire, oh, ben là, mes finances, c'est moi qui travaille, c'est moi qui vais aller chercher l'argent. Tu as un besoin d'argent? Confie-le au Seigneur. Tu as un besoin de consolation? Confie-le au Seigneur. Tu as un besoin de patience dans ta vie, pour quelque raison que ce soit? Demande-le au Seigneur. Il est tout suffisant pour combbler tous tes besoins. Dans son nom, El Shaddai, tout ça est compris. Et il lui rappelle aussi les promesses qui sont dans l'Alliance, qui lui avait dit que de ses reins pour sortir des nations, une multitude des nations, et même que des rois sortiraient de... Bien sûr, c'est le roi des rois qui va finir par sortir. Jésus va finir par sortir des reins de la lignée messianique. Maintenant, dans le verset 13 à 15, on voit, quand on dit que toutes ces choses-là finissent par donner du renouveau dans ta vie. Donc, Dieu permet une épreuve. Dina fait un péché monumental. Et après ça, Dieu lui dit, lui donne une direction. Inquiète-toi pas, je suis avec toi encore. Et va ce que je te dis. Mais encore là, même dans l'obéissance, on voit qu'il avait perdu sa nourrice. Pour lui, ça devait être une grosse affaire. Parce que les femmes, dans ce temps-là, les femmes avaient des nourrices, c'était comme des moments, tu sais. Mm-hmm. Ils avaient élevé les enfants toute leur vie. Mm. Quand mourait quelqu'un, c'était une épreuve. Il était dans l'obéissance. Si on ne retient pas ça, là, quand on étudie les Écritures, Dieu nous enseigne par les Écritures. Il est en train de nous montrer que des fois, il va nous corriger d'une bêtise qu'on a faite. Et là, il va nous dire, remets-toi dans l'obéissance. On va comprendre, on se remet dans l'obéissance. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause que tu vas être dans l'obéissance, que tu vas être exempté de toute épreuve et de toute affliction. Parce que Dieu permet que tu n'aies d'autre pour des raisons que lui décide. Alors, le renouveau de l'adoration. Donc, Dieu permet que tu te réformes, qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans ta vie, que tu enlèves, comme lui, dans son cas, tu as l'idolâtrie, se remettre à l'adoration, parce que Dieu lui dit, refais-toi un autel. C'était quoi l'idée? Remets-toi à l'adoration. Et dans le verset 13 à 15, on voit que c'est exactement ça qu'il a fait. Verset 13 à 15, Dieu remonta avec lui. Donc, Dieu lui est apparu. Mais quand Dieu dit « il remonta avec lui », c'est que là, il y a la vision qu'il avait de Dieu, il ne le voyait plus. Mais après ça, le verset 14, « et Jacob dressa un monument au lieu où il lui avait parlé, un monument de pierre, et il fit dessus une aspersion, et il versa de l'huile. Et Jacob appela le lieu où Dieu lui avait parlé, Bethel, qui veut dire « maison de Dieu ». Dans le verset 13, on voit une chose, que Dieu est d'une extrême condescendance lorsqu'il s'abaisse à venir visiter un homme et à lui parler. Nos moments d'intimité avec le Seigneur vont toujours demeurer courts et transitoires. Ça veut, sûrement, depuis votre conversion, vous avez sûrement connu des moments où vous vous sentez plus proche de Dieu et vous sentez que Dieu vous parle avec plus d'intensité que d'autres moments. Mais en général, ces moments-là, comme je viens de le dire, sont toujours courts et transitoires. On ne les sent pas tout le temps, ces moments-là. Alors Dieu s'élève d'au-dessus de lui. Ce n'est que lorsque nous serons au ciel, avec lui, que notre vision de lui sera permanente et éternelle. Dans le verset 14, Jacob voulut rendre permanent et durable le lieu d'adoration. Autrement dit, ici on a une bâtisse, c'est parce qu'on a voulu avoir un lieu d'adoration durable qui va rester dans le temps. Lui, le fait de se faire un autel en pierre, c'était une démonstration de sa volonté, de sa détermination que maintenant, je m'en vais dans l'adoration et je vais y rester. C'est intéressant aussi l'idée de l'aspersion ou une libation. C'était quoi une aspersion? Voyez-vous, encore là, une autre occasion, on lit le texte aujourd'hui, on parle, il fait une libation, c'est quoi ça? Mais la meilleure façon de le savoir, là, jetez-vous un dictionnaire biblique. Quand vous prenez un mot comme ça, vous ne savez pas c'est quoi ça veut dire. Allez chercher, puis lisez le mot libation. Et là, on va tout vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une libation. Puis la prochaine fois que vous avez relire le même passage, vous allez mieux le comprendre que la fois précédente. Puis si vous faites ça chaque fois que vous rencontrez un mot ou un concept que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas sûr, vous allez voir que votre compréhension théologique va augmenter. Alors, une libation, c'est l'action de répandre un liquide en offrande à Dieu. C'est une forme de sacrifice. L'huile symbolise souvent le Saint-Esprit dans les Écritures. Selon sur le monument, il met de l'huile. Et souvent, dans le symbolisme de l'huile dans les Écritures, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et dans le verset 15, Jacob, il confirme de nouveau le nom du lieu où Dieu lui est apparu, Bethel, donc maison de Dieu. Moi, je vois au moins trois applications, sûrement qu'il y en a plus que ça, parce que dans 15 versets, on peut trouver beaucoup d'applications. Qu'est-ce que c'est une application? C'est de regarder le texte, de voir, de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par ce passage-là? On a vu tout à l'heure, par exemple, dire Quand on est sur le chemin de l'obéissance, ça ne veut pas dire que Dieu ne permettra pas qu'il arrive une autre affliction. Ça, c'en est une leçon. Si on retient ça, déjà, on a retenu quelque chose d'important dans le texte. La première application que je retiendrai du texte d'aujourd'hui, c'est le fait d'adorer notre Dieu qui est miséricordieux. Dieu voit nos misères et il en a pitié. La miséricorde, c'est comme une pitié de la misère de l'autre. Se pencher sur lui sans le juger, l'aimer, l'accueillir tel qu'il est dans ses difficultés. Dieu est miséricordieux et s'il ne l'était pas, s'il exercerait envers nous sa justice chaque fois qu'on pêche, au lieu de sa miséricorde, ça ne serait pas beau, hein? Parce qu'on pêche à tous les jours. Alors, il exerce sa miséricorde quand il voit qu'on fait les choses, qu'on cherche à s'approcher de lui, on cherche à éliminer le péché de nos vies. Il est miséricordieux, il vient nous aider, il nous apparaît, il nous parle d'une façon ou d'une autre, soit par les circonstances, soit par les Écritures, des choses comme ça. Il est fidèle dans ses rappels. Dieu nous rappelle souvent nos devoirs, nos responsabilités, nos fautes. Lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü, il rappelle une faute. Il nous rappelle notre direction. Où tu t'en vas, là? Nous, on s'en va au ciel. Mais si on prend une mauvaise route puis on s'en va plus au ciel, le Seigneur va intervenir et il va dire, c'est pas là où tu t'en as, c'est là. Alors, c'est ça. Notre direction et notre identité. Il nous rappelle qui on est. Parce que lui, il lui rappelle, t'es plus Jacob, t'es plus supplanteur maintenant. T'es celui qui a vaincu Dieu dans sa lutte avec Dieu. Alors, Dieu se sert souvent du rappel. Quand on fait une préparation au culte le matin, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça qui sert. Dieu se sert du rappel pour nous remettre à la mémoire des choses qu'on a besoin de se rappeler continuellement. Donc, première application, adorons notre Dieu parce qu'il est miséricordieux. La deuxième, adorons notre Dieu miséricordieux parce qu'il est saint et il se charge de nous réformer. Dans notre vie, il y a un paquet de choses qui ne marchent pas tout à fait à son goût. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On sait que c'est des choses qui ne marchent pas tout à fait à son goût. Nous réformer, ça veut dire qu'il va les changer lentement, une par une, jusqu'à temps que tu aies compris. Puis s'il y a une chose que ça a besoin de plus qu'une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire d'Abraham avec sa femme. Oh, c'est ma sœur. Il l'a fait repasser une deuxième fois parce qu'il n'a pas compris la première fois. Il aurait dû comprendre la première fois. C'est comme nous autres, le Seigneur permet qu'il arrive des affaires dans nos vies pour qu'on comprenne quelque chose. On était durs. Fait que, si t'as pas compris, reviens au point de départ, mon petit jeune homme, va te le refaire traverser une autre fois. Jusqu'à ce que tu comprennes. Puis des fois, il peut y aller plusieurs fois. Là. Puis là, un moment donné, tu vas avoir un bon matin, tu vas te réveiller, tu vas avoir un éclair de génie. Tu vas dire, OK, Seigneur, viens comprendre, c'est quoi tu voulais me dire. On est lent. Comme le Seigneur le disait quand il est venu sur la terre, vous êtes lent à comprendre. Jusqu'à quand vous endurerai-je, qu'il disait. Alors, il vient nous réformer dans nos manquements, dans nos infidélités, dans nos idolâtries. Si on se posait la question ce matin, chacun d'entre nous, est-ce qu'il y a de l'idolâtrie dans ma vie? Peut-être pas d'idolâtrie grossière, comme mettre une statue puis l'adorer. Mais peut-être qu'il y a des formes d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. C'est large. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Quand on fait un choix, qu'on a le choix entre choisir Dieu puis choisir une autre affaire, puis qu'on choisit l'autre affaire, c'est de l'idolâtrie. Puis si on s'examine avec honnêteté, puis qu'on demande à Dieu de nous sonder, c'est la meilleure façon. Parce que s'examiner, on est très, très, très généreux envers nous-mêmes. Oh, pas d'idolâtrie dans ma vie. Attends un peu, demande-le au Seigneur. Dis au Seigneur, s'il y a de l'idolâtrie dans ma vie, Seigneur, je t'en prie, révèle-la, montre-la moi. Fiez-vous sur moi, il va vous la montrer. Il va vous la montrer qu'il y en a, puis il y en a peut-être pas mal plus qu'on pense. Nos idolâtries et nos désobéissances. nos désobéissances. Si on regarde le livre, il y en a des commandements là-dedans, mes amis. Ah, il y en a. Combien qu'on a de manquements, de désobéissances. On a. Le Seigneur est patient et miséricordieux. Mais aussi, parfois, quand il voit qu'il y a de la mauvaise foi, là, il peut changer de moyen. Des fois, c'est le châtiment. Et ça fait mal, le châtiment. C'est un peu comme quand madame, les enfants sont bien désobéissants, puis ils en arrivent au moyen que tout le monde comprend. Des fois, le Seigneur fait la même chose avec nous. Il nous montre, il nous amène des leçons. Mais si on s'acharne, puis qu'il s'aperçoit que c'est de la mauvaise foi, on ne peut pas tromper le Seigneur. On ne peut pas le tromper. Enlevez-vous ça de l'esprit. Il sait quand c'est de la mauvaise foi. Et là, il va te corriger. Il va faire en sorte que le bâton de l'affliction, tu vas le sentir. Et il dit qu'il le fait parce qu'il t'aime. Quand ma mère, mon père me donnait une fessée quand j'étais jeune, là, ou ma mère me donnait un petit coup de bâton, là, moi, je ne savais pas ça parce qu'il m'aimait. Moi, je me disais à ma mère, mais non, il ne m'aime pas, ça ne se peut pas qu'il me fasse bobo même. Puis... Mais il y a des fois qu'il faut qu'il te fasse bobo pour que tu comprennes. Là. Ta tête dure pas mal. OK, la troisième application. Il est puissant pour nous ramener, pour amener du renouveau dans nos vies. Le renouveau dans nos vies peut s'exprimer de différentes façons. Ça peut être par l'affliction. Il t'en envoie un autre. Tu te remets dans l'obéissance, puis tu t'envoies une autre affliction. Ah, ça va changer d'autre chose. Ça veut dire que tu n'as pas fini avec toi. Celui des manifestations régulières de sa présence, parce que, voyez-vous, malgré toutes les difficultés que Jacob a connues, Dieu revient. Il lui apparaît régulièrement, il lui parle régulièrement, il lui rappelle des promesses qu'il a faites dans l'Alliance dans le passé. Alors pour lui, c'est bénissant de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de toi, qui surveille ce que tu fais, puis qui te corrige au moment que tu as besoin d'être corrigé. Alors on a besoin des manifestations régulières de sa présence, et on a besoin aussi d'une adoration exaltée, est conscient de ses innombrables grâces et bénédictions. Pourquoi il lui demande un autel? Retourne à Bethel, demeure-y, et le besoin d'adoration. Il lui dit, remets-toi dans l'adoration quotidienne. L'adoration, c'est la découverte extraordinaire d'un Dieu infini, que peu importe quelle facette qu'on va le regarder, c'est infini, tu n'auras jamais fini de découvrir ce qu'il est. Amour, miséricorde, patience... Et toute la liste, là, la sagesse, il est parfait. Il est infini dans chacune de ces choses-là. Et il n'arrête pas de nous donner des grâces et des bénédictions. Que Dieu soit adoré, loué et béni à tout jamais. Amen.
Amen.